Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
L'écriture de la Bible a duré plusieurs siècles et a mobilisé de nombreux écrivains. Des sages, des prêtres, des prophètes, des juristes, des chroniqueurs, des poètes, des évangélistes. Pour les croyants, la Bible n'est pas un livre comme les autres. La tradition chrétienne y reconnaît un ouvrage dont Dieu est l'auteur. Elle désigne même les Écritures comme la parole de Dieu, tout en reconnaissant que cette parole divine s'exprime dans un langage humain. L'apôtre Paul affirme que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Jésus lui-même atteste de l'inspiration des Écritures à son égard en utilisant l'expression « selon les Écritures » que nous avons repris comme titre de notre émission. Mais comment s'opère l'inspiration divine des écrivains bibliques? Peut-on dire, comme les lectures fondamentalistes, que les auteurs biblistes écrivaient docilement sous la dictée de Dieu? Étaient-ils des auteurs à part entière, écrivant librement, avec leur personnalité, leur culture et tout ce qu'ils portaient en eux? Comment percevaient-ils la présence de Dieu dans leur vie et sa trace dans leur histoire? Comment trouvait-il les mots justes pour dire Dieu et transmettre sa parole? Plutôt que de proposer des réponses académiques à ces questions, nous invitons nos auditeurs à la relecture d'une grande page de l'Ancien Testament, le premier chapitre du livre de la Genèse dans la Bible de Jérusalem. Tout le monde connaît ce magnifique récit de création, même si certains trouvent saugrenu ou naïf de s'y intéresser encore au XXIe siècle. Avec vous, Père Alain, nous allons voir qu'une enquête sur ce texte et ses origines peut nous aider à comprendre comment Dieu s'y prend pour parler aux hommes à travers les écrivains et les écritures bibliques. Mais entrons sans plus attendre dans ce texte par le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Nous connaissons par cœur la première phrase de ce texte car elle inaugure la Bible. Sa traduction apparaît-il poser des problèmes, notamment le premier mot, « Bereshit » en hébreu. La Bible de Jérusalem dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Alors que la Tobe dit « Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre. » Comment comprenez-vous cette phrase, Père Alain, qui sert d'entrée en matière au texte et finalement à toute la Bible?
Oui, alors avant même de vous répondre directement, je vais y venir tout de suite. Il est bon quand même de rappeler au fond deux points qui peuvent nous éclairer dans la démarche que nous faisons, que nous avons commencé. La Bible s'est écrite sur une longue durée, donc nous parlons à partir d'une Bible constituée, écrite, l'Écriture, donc vous avez dit les Saintes Écritures, et de l'autre manière, la lecture a duré des siècles et des siècles, et selon les périodes, elle a évolué, bien sûr. Et donc, vous avez évoqué l'idée... La Bible, c'est la parole de Dieu. L'Écriture, c'est une parole directe de Dieu. Ça reste vrai. On le redit depuis le début, mais bien sûr, on le redit aujourd'hui différemment, on aura l'occasion de traiter ça, différemment d'autrefois. Alors, le titre, c'est évidemment une ouverture formidable, hein, c'est en hébreu, comme vous savez, et ça commence avec cette phrase célèbre, hein, « Bereshit bara Elohim haaretz veshamayim ». C'est au commencement, au commencement. Alors, c'est vrai que c'est important de penser à ce commencement, parce que vous connaissez des gens, quand vous dialoguez avec certains qui commencent une conférence, par exemple, ils ne savent pas comment commencer, et ils disent « je commence ». On sait qu'ils commencent, puisqu'ils disent « je commence ». Ici, on ne dit pas « je commence », on dit « au commencement, Dieu créa le ciel ». C'est-à-dire, cette ouverture par le « au commencement » met tout de suite dans une dynamique, au fond, qui pèse très lourd dans l'interprétation. On pourra dire beaucoup de choses là-dessus. Peut-être je souligne un des seuls points qui a beaucoup fait travailler les spécialistes hébreux. Les juifs aiment bien décortiquer les textes, ils jouent sur les lettres, sur les mots. Et donc le fait, ça commence par un B, Bereshit, Bereshit. Et des gens comme Rashi, qui était un grand maître, un vigneron en même temps, mais un grand maître de l'écriture, s'est interrogé pour dire, puisque c'est le commencement, pourquoi ne pas commencer par Aleph, A, au lieu de commencer par la deuxième lettre, B. Et il disait, parce que, justement, ça n'est pas un commencement absolu. Il y a un autre commencement antérieur, c'est le grand mystère de Dieu. Ça ne nous est pas accessible, c'est fermé. Et donc, on commence par le commencement qui nous concerne, nous, les humains, à travers, au fond, le mystère de Dieu qui nous rejoint. Mais avant, Dieu existe, mais ça, on n'a pas le droit d'y toucher.
Oui, et alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Dieu existe, mais rien d'autre. Il y a là le fameux débat un peu philosophique, métaphysique, sur la création ex nihilo.
Oui, oui.
Est-ce que cette idée était déjà présente dans le monde hébreu ?
Je pense qu'ils avaient ce sentiment, sans doute un peu naïf, mais que l'on a spontanément, qu'effectivement, avant la création, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on sait que les choses sont beaucoup plus subtiles. Au commencement, c'est un commencement qui commence pour nous dire Dieu. C'est-à-dire, c'est véritablement quelque chose qui commence. On va nous raconter Dieu à partir de ce commencement. Et les premiers chapitres de la Genèse vont poser les vraies questions autour du mystère de l'homme. Ce sont des textes évidemment très, très élaborés, qui ont été écrits assez tard, parce qu'ils portent une théologie. C'est un peu comme certains livres, quand on regarde une préface dans un livre, la préface en général contient un peu le résumé du livre. C'est son objectif normalement. C'est un peu le résumé du mystère de Dieu dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et donc, en ce sens-là, c'est bien sûr le début de l'histoire, mais en même temps, c'est ce qui, sans doute, a été écrit en tout dernier, comme on va le souligner peut-être aujourd'hui.
Le fait que les deux grandes traductions, la Bible de Jérusalem et celle de la Tobe, aient des nuances, enfin c'est plus que des nuances, des différences de traduction, est-ce que ça pose un problème au niveau ensuite de la lecture, de l'interprétation, ou est-ce que c'est un enrichissement finalement ?
Non, parce que, vous savez, traduire, on dit souvent, c'est toujours trahir, c'est difficile de traduire un texte, et d'autant plus que quand on le regarde de près, il a des étrangetés. Et en particulier, puisque vous soulevez la question, le fait de commencer comme ça, Bereshit, quand on lit le texte en hébreu, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'article. Normalement, il aurait fallu un article, puisque c'est comme si on disait dans le commencement, au commencement, ça l'article est sous-entendu quand on dit au commencement, dans le commencement, or il n'y a pas d'article. Et ça a poussé certains traducteurs, dont la Tobe, à traduire, non pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais lorsque dans un commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Ils avaient gardé cette traduction. On trouve cette forme dans des textes mésopotamiens, lorsque dans des commencements, et donc ils ont cru qu'il fallait reproduire cette traduction. Et puis, eux-mêmes l'ont abandonné ensuite, et on est revenu à cette faute, on pourrait dire une faute grammaticale, mais qui est dans le texte et qui sans doute sous-entend un article, mais il n'y a pas d'article.
Alors la deuxième phrase du texte est tout aussi énigmatique que la première, vous avez commencé à la citer. « Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. » Certaines traductions littérales parlent de « tohu-bohu ». Comment lisez-vous cette phrase ?
Ah ben, c'est pas une traduction, c'est le texte hébreu. Tohu-bohu, c'est un, on peut dire un syntagme, un ensemble de deux mots qui sont reliés, que vous ne retrouvez qu'une seule fois dans la Bible, pour décrire un moment dramatique dans l'histoire du salut. Donc c'est dire, tohu-bohu, c'est le désordre absolu, tohu-bohu. Et ça va entrer même dans notre langue, hein, le tohu-bohu, c'est le désordre. C'était le désordre, et ça nous donne une idée au fond de ce qu'il y avait avant la création. C'est-à-dire c'était un monde désordonné, un monde sans lumière, sans... et c'est pas par hasard qu'on commence par la lumière. C'était un monde de tohu-bohu, on pourrait dire, de désordre, et il y aura une mise en ordre, mais une mise en ordre qui va aller de manière harmonieuse avec des jours qui se déploient l'un après l'autre, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au septième jour, sept étant le chiffre parfait en hébreu, et à travers tous ces développements, il y a une montée aussi de complexité de création. C'est véritablement des artistes qui ont écrit ce texte-là. Alors, vous pourriez me dire, mais oui, ils étaient inspirés. Mais comme un auteur est inspiré, c'est la lecture qui nous fera dire où est l'inspiration. Et la relecture, au fond, par la venue du Christ, va nous faire bouger ces textes, parce qu'on va y voir aussi quelque chose qui a commencé et qui aboutit, en quelque sorte, au Christ qui vient vers nous.
Alors, c'est cette vision de la création qui est exprimée par ces artistes, comme vous dites, elle correspond à une époque, à une culture. Quelle est l'origine de ce texte ? Que sait-on finalement sur l'auteur, sur l'époque et sur le contexte de sa rédaction ?
Alors, bon, beaucoup de questions que vous me posez là. Ce que l'on peut dire, parce que ça a beaucoup bougé dans l'histoire, hein. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais là, il faut attendre peut-être l'avenir, j'ai le sentiment que, entre les spécialistes de la Bible, il y en a beaucoup dans le monde, hein, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, la Bible c'est un livre universel, il ne faut pas l'oublier, dans toutes les cultures, dans les universités, pas simplement dans les instituts catholiques, on étudie, on lit la Bible, parce que c'est un livre majeur, disons. Il y a une dimension, on pourrait dire, universelle dans tous ces livres, et sans doute avec des traductions différentes selon les périodes. Donc, ne pas s'étonner qu'il y ait des désaccords. Alors, peut-être pour essayer de mieux comprendre, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est convaincu que cette partie, qui est la première partie de la Bible, on pourrait dire l'ouverture, les 11 premiers chapitres, dont font partie ce chapitre que nous regardons ensemble, c'est ce qui est apparu en tout dernier. Et c'est les exilés. Quand ils vont rentrer en Terre Sainte, ils vont porter avec eux toute une culture qu'ils ont connue en Mésopotamie. N'oublions pas que parmi eux, il y avait des gens très savants. Parmi les Juifs qui avaient été exilés, puis il y avait deux générations quand même qui avaient connu l'exil. Donc ils avaient appris les langues du pays et donc ils vont puiser un certain nombre de richesses dans les textes. On aura l'occasion de le montrer avec des exemples précis. Et donc, il y a beaucoup d'influence de ces textes mésopotamiens. Mais en même temps, et c'est ça qui fait la richesse de nos textes, il y a une force, peut-être une originalité que l'on ne trouve pas dans les textes mésopotamiens. Il y a une beauté littéraire, on pourrait presque dire une beauté mystique même dans nos textes, qui est unique dans la littérature ancienne. Alors, est-ce que c'est déjà l'indice d'une inspiration ? On pourrait le penser, mais ceux qui ont écrit étaient certainement des hommes, et, j'allais dire des femmes, non, il n'y a pas une femme qui a écrit des textes bibliques, c'est plus tard qu'elles vont entrer dans ce rôle possible, mais c'était de grands auteurs, c'est incontestable. Et donc, il faut le penser comme un commencement, comme une préface. Or, la préface, comme vous le savez, c'est ce qu'on écrit en tout dernier lieu quand on écrit un livre.
Mais s'agissant de textes qui ont été écrits, comme vous le dites, un peu tardivement, enfin à l'époque de l'exil, etc., qui finalement a décidé de mettre ce texte, et puis le livre de la Genèse en entier, au tout début de la Bible ? Quand s'est fait cet assemblage ? Quand s'est fait cette organisation de la Torah, qui est devenue le Pentateuque ?
Disons, le consensus dont je vous parlais il y a quelques instants laisse entendre que ça s'est fait à la fin de l'exil. Et donc c'est là que la Bible va prendre sa forme définitive. Et c'est parti, d'ailleurs, on pourrait faire une remarque qui pourrait nous éclairer, parce que souvent, les lecteurs qui ne sont pas familiers des Écritures ont d'autres visions, parfois surtout des visions un peu idéologiques, hein, liées à l'histoire. Ils sont convaincus que ça a été donné directement par Dieu à l'homme, alors que nous, on pense au contraire que c'est tardif. Alors, peut-être une preuve pour le donner, qui peut nous réconcilier un peu avec la critique actuelle, quand on n'est pas naturellement porté à ça, c'est que les thèmes d'Adam et Ève, qu'on verra dans les chapitres suivants, mais qui font partie du même ensemble, n'apparaissent pas du tout dans la Bible. Ce sont des thèmes tout à fait marginaux. Et pourquoi sont-ils si marginaux? Tout simplement parce qu'ils ne sont apparus que très tard. Ils sont apparus au moment où la Bible va se nouer. Et c'est saint Augustin, puis saint Paul aussi, dans les Romains, qui va donner toute la place à Adam et Ève, mais à l'époque du 4e, 5e siècle, ça n'était pas le cas.
Alors, il y a quelque chose aussi qui est surprenant, c'est la forme d'écriture. À première vue, on a l'impression de lire une sorte de poème mythique ou une sorte d'hymne liturgique, peut-être. Quel est finalement le genre littéraire de ce texte? Est-ce qu'il n'est pas un peu hybride?
On pense que c'était un texte qui avait sa place dans la liturgie, comme tous les textes. Hein, si on veut comprendre la naissance des Écritures, il faut toujours partir de cette idée que l'Écriture est née à l'intérieur du temple. C'est le temple, un peu comme ce qu'on retrouvera pour l'Église, pour les textes du Nouveau Testament. Ils sont nés dans l'Église, ils sont nés dans la liturgie de l'Église. Eh bien, pour l'Ancien Testament, c'est un peu la même chose. Ce sont des textes qui sont liés à la prière, à la célébration, et donc se sont construits à l'intérieur par des hommes très savants. On verra dans quelques minutes que c'est important le rôle qu'a joué l'influence de la palette de Mésopotamie. Oui, mais avec une originalité biblique qui fait grandir encore le texte plutôt que l'inverse.
Alors justement, puisque vous évoquez la question de ces sources exogènes, les exégètes ont mis en évidence des parentés entre ce texte et des récits mythiques anciens d'origine babylonienne ou mésopotamienne. Que sait-on sur cette source d'inspiration qui était étrangère au peuple d'Israël et quelle a été son influence sur la rédaction du texte biblique?
Alors en général, c'est assez subtil. C'est-à-dire, quand ils ont considéré qu'ils pouvaient reprendre certains thèmes qu'ils avaient connus en Mésopotamie, ils l'ont fait avec beaucoup, beaucoup de subtilité. Par exemple, ce commencement de la Genèse, on la retrouve dans les textes de Mésopotamie. Au commencement, Dieu créa le ciel. Lorsqu'au commencement, Dieu créa le ciel. Ça, c'est des formules qu'on retrouve beaucoup dans le monde ancien. Et en même temps, ça aide au fond pour nous, ça nous aide à comprendre l'originalité de nos textes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont eu des possibles influences de ce qu'ils ont connu là-bas que nos textes perdraient de leur valeur. Au contraire, il y a une originalité, une rigueur. Ici, c'est un texte, c'est la rigueur de la poésie, si vous voulez, ce rythme qui revient. Dieu vit que cela a été bon, Dieu vit que cela a été bon, puis à la fin que c'était très bon. C'est manifestement une sorte de vision positive de l'histoire de l'homme à partir de ce texte condensé, riche, qui résume beaucoup de choses.
Alors, comme le temps passe, on va illustrer peut-être votre propos en lisant un petit extrait d'un texte babylonien. « Lorsqu'au commencement, le Seigneur créa ses œuvres, en les faisant, il en sépara les parties. Il ordonna ses œuvres pour l'éternité, depuis leur origine jusqu'à leur avenir lointain. » Nous voici donc au terme de cette première émission consacrée à l'inspiration de la Bible. Merci à vous, Père Alain Marchadour, de nous avoir fait partager vos connaissances. Nous poursuivrons bien entendu la relecture de ce premier chapitre de la Genèse la semaine prochaine, même jour, même heure. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.